nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Christ est ressuscité.
Amen. Christ est ressuscité.
Le Christ Jésus a posé la Pâque, sa Pâque, au centre de l'histoire. Elle en est le sens profond. Il n'est donc pas étonnant que 8 jours après, rencontrons pour la première fois ses disciples. Ils venaient de faire toute chose nouvelle après cet état d'exil dans lequel se trouvait l'homme. Il souffle sur eux. C'est un moment qui m'a toujours saisi. Je ne sais pas comment vous le recevez, mais ce moment où Jésus souffle sur les disciples, le premier acte après la résurrection. Il réitère donc comme nouvel Adam ce geste du Créateur des origines. C'est bouleversant. On voit l'origine biblique et la fin biblique où il y a le même geste du Créateur. Le geste initial où Dieu Créateur insuffle dans l'homme son haleine de vie. Il expire et l'homme inspire, il passe du non-être à l'être. Quelle Pâque! Ce passage du non-être à l'être, l'homme entre en état de rupture, et voilà que Jésus le Christ refait, comme dit l'Apocalypse, toute chose nouvelle, et le premier geste qu'il repose, c'est celui du Créateur. Il souffle, il insuffle à nouveau aux disciples la plénitude de la Ruach, la puissance de l'Esprit. Et quel est ce souffle que nous inspirons maintenant à chaque moment? C'est notre conscience. La conscience et le souffle, c'est une et même réalité. Il faut entrer dans l'expérience pour s'en apercevoir. Et ce fait de devenir de plus en plus conscient, quel exercice du souffle, donc d'une conscience, nous rend participants de la conscience du Christ ressuscité. Quand le Christ dit, quelques jours avant, « Je suis la résurrection et la vie, adhère-tu à cela », dit-il à Marthe et à Marie. Il nous rend participants de ce présent absolu qu'il va inscrire dans l'histoire. Et notre conscience, c'est cette participation à l'être du grand Je suis qui fait que nous sommes des vivants, c'est-à-dire des ressuscités. Il n'est donc pas étonnant non plus qu'il y ait dans cet évangile, cet admirable, je ne sais pas si ça vous a frappé, va-et-vient entre le premier jour qui devient le 8e, le 7e qui devient le 1er, et le 1er qui devient le 8e. L'homme qui habite dans cette conscience de ressuscité, qui s'y exerce et en vit et qui s'en nourrit, celui-là, il est dans l'éternité qui se trouve dans son temps. Il y a une mutation profonde du temps à partir de la Pâque. Et on peut voir alors à quel point nous sommes dans une nouvelle dimension, car le Christ, tout à coup, se rend présent au milieu des apôtres alors que toutes les portes sont closes. Cela veut dire quoi? Que cette dimension céleste non conditionnée se trouve à l'intérieur de nos fermetures, de nos verrouillages, de nos blocages et de tous nos nœuds, de nos peurs et angoisses. Et dans ce contexte, Jésus le ressuscité leur dit 3 fois, pourtant le texte n'est pas si long que ça, « La paix soit avec vous ». C'est-à-dire, l'homme ressuscité que nous sommes devenus n'a plus de conflit. Ou plutôt, au sein même des conflits qui nous entourent, il ne peut pas être atteint parce que sa stature de ressuscité est une situation non conditionnelle. L'homme ressuscité que nous sommes n'exerce plus aucune dépendance. Il n'est plus enchaîné. Il est un porteur de paix. Et quelle question précisément à notre conscience. Suis-je un porteur de cette paix-là au sein d'un monde en détresse? Alors Jésus montre ses mains, il montre son côté. Cela veut dire que, justement, il s'est identifié à notre souffrance et à notre mort, et qu'il y a introduit la divinité elle-même. Nos blessures, présentes ou passées, sont maintenant remplies de sa lumière de résurrection. Et cela veut dire que toute souffrance peut être transfigurée pour ceux qui en acceptent de toucher les plaies du Christ à l'intérieur de nos propres plaies. Il est là, comme Thomas l'a expérimenté. Les disciples, ça les remplit de joie. Et la joie, en effet, est le grand signe que la vie commence à triompher. Sans joie, il n'y a rien de vrai, aucune vérité, aucun amour n'est possible, car la joie est le fruit de l'Esprit. Cette roi qu'il insuffle aux disciples, cette puissance de l'Esprit, son fruit, son premier fruit, c'est la joie avec majuscule. Alors, Jésus leur dit, « Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. » Le Père est la source. Il veut nous dire en nous envoyant, « Vivez à partir de la source qui vous est intérieure. N'ayez plus d'autre motif que la source qui est le Père. Alors votre vie aura une direction. » Et là où nous nous trouvons, que ce soit dans les grandes choses ou les petites, jusque dans les détails du quotidien, nous sommes des envoyés, c'est-à-dire quelqu'un qui vit une décision, qui a une direction, qui est porteur de ce souffle. Alors, les conflits, oui, ils existent, les heurts, les blocages, les blessures, et le monde continue à être porteur du péché, mais celui qui est au cœur de ce monde, le Christ a reçu, il a reçu du Christ la capacité de pardonner. Recevez l'Esprit, dit-il, les péchés seront remis. C'est-à-dire, la rupture avec cette nouvelle état, elle trouve en moi sa réponse. Le pardon, c'est notre nouveau statut. Il est toujours offert comme grâce. Il est celui de l'amour inconditionnel. Le pardon, c'est notre pain quotidien. Nous ne pouvons pas vivre sans lui. C'est le don parfait. C'est l'amour sans limite. Et donc Thomas, qui vient ce fameux huitième jour en retard, il n'est pas si en retard que cela. Il s'inscrit dans la logique de l'incarnation. Et je crois que c'est surtout trois choses qui le caractérisent. C'est-à-dire la primauté de l'expérience. Il refuse de croire intellectuellement ou sur une parole peut-être jetée comme ça, Christ est ressuscité. Il dit, je le croirai quand je pourrai mettre mes doigts là où ça se passe. Et Jésus ne récuse pas cela. Il lui dit, mets tes doigts, mets ta main dans mes côtés, dans mes mains. Expérimente la primauté de l'expérience. On a la foi que de son expérience. Et la foi sans expérience est peut-être une prémisse, une autre étape, mais ce n'est pas encore l'état de disciple. Ensuite, Thomas nous manifeste l'importance du passage à une foi sans signe. Une foi sans signe. Ou peut-être le contraire. Une foi qui ne cesse de découvrir que tout est signe, que tout est rempli. Nous l'avons chanté la nuit de Pâques. Tout est rempli de la lumière, le ciel, la terre et l'enfer. Mais il faut alors une foi qui exerce un regard de transparence. Pourquoi? Parce que nous avons la certitude eucharistique que le Christ est la chair de ma chair, le sang de mon sang. Je n'ai plus besoin de le voir. Jésus dira à Thomas, « Heureux ceux qui croient sans voir. » Ceux qui voient mettent les choses à distance. Si je vois Jésus, c'est qu'il est à distance. Mais s'il m'est intérieur, chair de ma chair, sang de mon sang, alors ce sont mes yeux intérieurs qui le touchent, qui le palpent, comme dit saint Jean, et qui l'expérimentent. Quel bonheur! C'est le bonheur des ressuscités. À lui la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles.
Amen.